Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir la personne que vous connaissez bien maintenant, pour ceux qui nous sont fidèles, Marie Lucas et Michel Corvin, qui est l'éditeur de Genet dans la Pléiade et aussi des Nègres dans Fauge au Théâtre, édition quasiment indispensable pour mieux approfondir les subtilités de la pièce. Et Michel Corvin est par ailleurs professeur émérite à Paris 3 et grand spécialiste du théâtre contemporain que vous connaissez. Donc, vers lui, je me tourne d'abord pour lui demander de nous situer cette pièce dans la vie plus que dans la carrière de Genet. Genet n'est pas un homme de carrière, évidemment.
Mais il l'a été. Ça a été pour lui une épreuve. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, puisque les Nègres ont été écrites, ou écrites, vous savez que les titres de pièces, normalement, c'est au neutre. Donc, il y a eu une demande de la part de Raymond Rouleau, qui était le grand metteur en scène de l'époque, parce qu'il voulait monter, il pensait avoir le personnel dramatique suffisant pour monter une pièce avec des Noirs. Donc, c'est une pièce de commande. Pièce de commande que Genet a acceptée avec une certaine réticence, mais malgré tout, il a pris, disons, la balle au bon, mais c'est malheureusement Rouleau qui ne l'a pas reçu cette balle parce qu'il n'a pas trouvé les Noirs nécessaires. Et donc la pièce est restée en suspens pendant un certain temps jusqu'à ce que Roger Blin, naturellement, vous le connaissez par son passé avec Artaud, donc son désir de sortir du traditionnel. Donc, il y a eu, avec Roger Blin, une possibilité d'entente, dans la mesure où Roger Blin avait monté, avec la compagnie des Griots, qui était déjà constituée, des espèces de manifestations, genre festival, texte lu, plus ou moins joué. Donc, il y avait quelque chose qui pouvait rentrer dans le cadre d'une pièce qui était écrite et qui s'appelait Les Nègres. Alors, une chose qu'il faut savoir, et qui est malheureusement mal connu, et je vois les journalistes qu'en mettre toujours l'erreur, c'est que Les Nègres n'est pas une pièce qui se place dans une chronologie particulière par rapport aux deux autres bien connus, à savoir Les Balcons et Les Paravents. Ça a été écrit en même temps. Vous savez que Genet a connu deux grandes périodes de créativité, vraiment deux grandes périodes, séparées par une grande période de stérilité. Il a écrit l'essentiel de ses romans, vraiment presque tout, entre 42 et 45. Et il a écrit à ce moment-là également Les Bonnes et Haute Surveillance. Ensuite, il a été reconnu comme étant un auteur qui sentait le souffre, bien sûr, et cette reconnaissance, finalement, l'a tué. Il est devenu un mondain. Il y a des photos de lui avec un beau manteau de fourrure, la mine réjouie, il a été fêté sur les Champs-Élysées, balai monté par Roland Petit, vous voyez, donc tout ce qu'il faut pour devenir un bourgeois. Et il a joué le jeu, et assez rapidement, il en est sorti, mais il n'en est pas sorti comme créateur, il en est sorti comme une sorte de victime. Et c'est seulement à partir de 49 qu'il a recommencé à créer, et c'est là qu'il a créé tout le reste. Alors, c'est Les Balcons, c'est Les Paravents, c'est Les Nègres, et c'est également la pièce qui n'a pas été publiée de son vivant, qui est une très jolie pièce, qui est malheureusement très peu jouée, et mal jouée en général, c'est Elle. Donc, on a affaire à une période extrêmement intense, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que les pièces déteignent les unes sur les autres. C'est-à-dire que Les Paravents, c'est la pièce qu'il est en train d'écrire le jour même où Les Nègres sont joués. Et il ne voit pas Les Nègres. Il est en Grèce à ce moment-là, et il aurait pu, évidemment, venir. Il n'a pas voulu voir Les Nègres parce qu'il ne voulait pas que ça interfère avec la pièce qu'il considérait comme sa seule véritable pièce. Il dit, avec Les Paravents, je vais enfin commencer à être un auteur dramatique digne de ce nom. Autrement dit, Les Nègres, pour lui, c'est une espèce de mise en jambe, si on pourrait s'exprimer ainsi, à laquelle il n'attache pas énormément d'importance. D'autant que Genet est un perfectionniste et qu'il n'a cessé de dire du mal de ce qu'il faisait. Et sans arrêt, il détruit au fur et à mesure ce qu'il produit. Il y a une phrase de lui qui est tout à fait significative. Ce n'est pas de la coquetterie du tout, c'est vraiment « plus je pense aux Nègres, plus je la vois comme une pièce très mauvaise, gonflée, lourde, faite avec des mots et des phrases creuses. C'est le type même de la fausse bonne pièce. J'ai vraiment eu tort de permettre à Blin de la monter. Donc Blin la monte au théâtre de Lutèce en 1959 avec la compagnie des Griots, je l'ai vu. C'était assez incompréhensible. Assez incompréhensible parce que la pièce est difficile, bien sûr, et aussi parce que ces différents Noirs parlaient tous un français différent. Il y en a qui venaient d'Afrique, d'autres venaient des Antilles, d'autres étaient en France depuis longtemps, et de la compagnie des Griots, il n'en restait qu'un seul, c'est Toto Bissin, une seule, Toto Bissin. Donc il a fallu reconstituer à partir des Noirs qu'on pouvait trouver sur la place de Paris, et on s'est aperçu qu'il y en avait très peu. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y en a très peu. Donc cette pièce a été reçue, naturellement, avec étonnement, avec scandale aussi, mais on parlera des mises en scène plus tard. Simplement, sachez que Ionesco est sorti en cours de pièce en disant « Je m'en vais, je suis insulté en tant que blanc ». Et il est parti, en claquant la porte. Je pense que ça suffit comme petite introduction. Sachez aussi, une chose que personne ne sait, c'est que Genet a été militaire pendant 6 ans. Il s'est engagé dans l'armée, il a été en Syrie, il a été au Maroc, il a fait de la garnison en France, à chaque fois pour toucher la prime et, naturellement, assorti de désertion. Sinon, ça ne serait pas jeté.
Et alors, nous en venons de nouveau à la pièce. Et je crois qu'on pourrait peut-être dire un mot du titre, parce que le titre, c'est le sujet, et c'est déjà beaucoup de ruses et beaucoup de niveaux de sens différents.
C'est pas seulement le titre, mais c'est le sous-titre. Mais les nègres! Mais un nègre, c'est de quelle couleur? Évidemment, immédiatement, si on pose la question, on rentre dans la réflexion sartrienne sur l'identité. Qu'est-ce qu'un noir, sinon l'image que l'on se fait de lui? Autrement dit, on colore l'adversaire ou le partenaire de la couleur qu'on désire qu'il ait, et à ce moment-là, il est totalement annihilé, aliéné, détruit par mon regard. Et c'est à moi de résister à ce regard, parce que la tentation première, c'est de se laisser manger par le regard de l'autre. Autrement dit, il y a un combat contre soi-même autant qu'un combat contre l'autre. Étant donné que l'autre, on l'a, pour ainsi dire, digéré, on s'est littéralement détruit soi-même, on s'est absorbé dans ce que l'autre veut que l'on soit. Donc on a cette idée que le nègre, ce n'est pas un noir, c'est une fabrication. Et donc il y a déjà avec cette notion l'idée que ça se dédouble. Il n'y a rien qui soit du premier niveau. Tout ce qui apparaît ne correspond pas à l'être. L'être et le paraître sont deux termes en opposition profonde. Ça, c'est un des schémas essentiels auxquels Genet tient énormément et qu'il a vraiment développé tout au long dans cette pièce. Et en général, il donne la parole pour développer ce point de vue à deux personnages. L'un qui est Archibald, c'est-à-dire le metteur en scène, donc une pièce dans la pièce dans la pièce, c'est-à-dire c'est un jeu de reflets à n'en plus finir, donc Archibald qui tient lieu de metteur en scène, mais de metteur en scène sur le terrain même, c'est-à-dire que c'est une sorte de répétition, c'est une sorte de filage à quoi on a affaire. On est en train de voir le metteur en scène diriger ses comédiens, dire ça ne le fait pas, ça va le faire ailleurs, etc. Donc c'est pas du travail antérieur, c'est du travail in situ, on pourrait dire. Donc on a le personnage d'Archibald et le personnage de Diouf, qui est un prêtre naturellement catholique, donc lui-même aliéné, puisqu'il est le serviteur d'un dieu blanc, donc il est bien placé pour connaître les deux faces de l'histoire. Donc c'est la réponse pour une part à ce que vous demandez, à savoir le thème de la théâtralité en tant que fiction consciente, délibéré, ouvrant la porte à une réflexion philosophique sur la différence entre ce qu'on voit et ce qui est. Et donc, ce qu'on voit, finalement, c'est le théâtre, mais ce que l'on voit, c'est rien. Ce qui est ailleurs. C'est pourquoi la pièce est construite sur 3 niveaux. Alors, le 3e niveau, je ne vais pas le dire tout de suite.
La structure, donc.
La structure, oui, en 3 niveaux. Le premier est celui de cette notion importante et très sartrienne du regard qui vous fait exister et qui vous tue en même temps. Le deuxième, c'est une affaire assez étonnante de la part de Genet, c'est une affaire d'amour. L'amour n'a pas beaucoup de place chez lui dans aucune de ses pièces, sinon l'amour maternel. Mais l'amour d'un homme et d'une femme, c'est extrêmement rare. Or, ce thème, il l'a développé Et il l'a développé en cours de route. Et là, une chose que je dois ajouter, c'est que si vous avez un peu la connaissance de Genève, vous vous apercevez que finalement, l'Énèque, c'est une pièce qui n'a pas posé problème au niveau des éditions. On a eu une première édition en 1958-59, c'est à cheval sur l'année, et puis il y a eu une deuxième édition que j'ai ici en 1960 avec les photos du spectacle, auxquelles il tenait énormément, il considérait que la mise en scène de Blin était une mise en scène, on pourrait dire, modèle à laquelle il fallait toujours se référer. Donc on a l'impression que la pièce est relativement simple, alors qu'on sait que les autres sont assez compliqués. Mais non, c'est pas vrai. Il y a eu 4 manuscrits, et on a pu, avec Albert Dichy, qui est, vous savez, le conseiller scientifique de l'IMEC, qui est mon ancien élève et mon ami, on a travaillé tous les deux pour reconstituer la genèse de l'Énègre. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué, et cette complication explique justement ces niveaux. Il y a eu une première version où la cour n'intervient absolument pas. Vous savez qu'il y a les Noirs qui jouent l'assassinat de la Blanche, d'une Blanche. Bon, c'est une chose, ils le jouent entre eux, et puis dans le premier manuscrit, c'est tout. Il n'y a pas la cour, c'est-à-dire il n'y a pas les juges, il n'y a pas les témoins qui sont les Blancs. Et vous savez que Genet tenait essentiellement qu'il y ait l'œil du Blanc sur ce qu'il écrit en tant que, disons, porte-parole des Noirs. Donc on a affaire, dans une deuxième version, à la cour, et on va avoir affaire, progressivement, à un développement de cette histoire d'amour entre Village et Vertu. Vertu, qui est une prostituée, et Village, qui est un Noir, chargé de jouer l'assassinat de la Blanche. La Blanche a déjà été tuée par d'autres, et on rejoue l'assassinat, donc on est sans arrêt, vous voyez, en train de faire un mouvement de réitération. Et naturellement, ce moment de réitération n'est pas simple. Et donc, au début, il insistait essentiellement sur l'hésitation des Noirs à rentrer dans ce jeu qui, naturellement, les perturbe et les déstabilise dans ce jeu d'un assassinat. Donc, on ne sait pas, évidemment, de quoi il est question. Nous, en tant que spectateurs, nous sommes crédules. On nous dit, il y a assassinat de la Blanche. On dit, bon, il y a assassinat de la Blanche. Et c'est seulement beaucoup plus tard qu'on s'apercevra que ce n'est qu'un faux semblant. Non seulement il n'y a pas d'assassinat, mais il n'y a pas de cercueil, et donc il n'y a rien. Et donc ça se joue avec du rien, ça se joue avec des images. Donc la notion d'image est fondamentale. Elle est beaucoup plus importante finalement dans l'Énèque qu'elle ne le sera dans le balcon, où vous avez la glorification de l'image et du reflet, c'est le grand mot qu'on retient du balcon, c'est vrai, mais c'est déjà inscrit d'une façon extrêmement nette, très forte, et en acte dans la structure même des nègres. Donc vous avez des manuscrits, 4 manuscrits, qui progressivement vont ajouter des éléments. Et ces ajouts, finalement, ça se voit. Tout le problème pour lui, ça a été de raccorder les éléments les uns aux autres. Et justement, il a conscience de ne pas l'avoir réussi tout à fait, et il le dit, et il est critique à l'égard de ce qu'il a fait. Mais ça tient justement à la progressivité de l'écriture. Il a commencé à écrire la pièce en 54, et il ne l'a fini, finalement, qu'en 58. Et Dieu merci pour nous, si ça n'a pas marché avec Raymond Rouleau, c'est tant mieux, parce que justement, il a pu reprendre sa pièce et la modifier considérablement. Par exemple, le dénouement, eh bien, il n'est apparu que dans la dernière version. Donc, dans un certain sens, l'unification de la pièce, elle est extrêmement tardive, et en même temps, on pourrait dire qu'elle est relativement discutable.
Très bien. Alors ça, c'est pour la structure. Vous aurez compris, bien sûr, et vous saviez que c'est une pièce qui est montée, et que cette pièce, en plus, c'est un aspect dont on va peut-être dire un mot maintenant, Genet la concevait comme bouffonne. Ce qui explique d'ailleurs le propos aux avant-premières, pour ceux qui ont la chance d'y être, de Robert Wilson venant nous dire « Il ne faut pas hésiter à rire beaucoup ». C'est un commandement qui n'a pas été suivi, d'ailleurs, le soir où j'étais. À aucun moment, personne n'a ri. On a vu à quel moment on pouvait placer un rire dans le feu d'artifice wilsonien. Mais en même temps, c'est bien ça.
C'est une mascarade, c'est le sous-titre de la pièce, il y tient beaucoup, il l'a dit.
Il faut dire qu'aux États-Unis, souvent, c'est joué simplement comme une pièce antiraciste.
Bien sûr.
Donc, comme si c'était les sorcières de Salem ou de l'Arthur Miller. C'est un contresens total.
Alors, c'est un contresens, mais en même temps, la direction politique, elle est inscrite. Elle est très inscrite, surtout si vous lisez la préface qui n'a pas été publiée à l'époque et qu'il n'a pas voulu qu'on publie parce que, justement, elle était trop orientée. Il voulait garder pour la pièce son caractère d'ouverture et d'ambiguïté. Mais la préface pose réellement la question noire et dit réellement ce que la pièce dit elle-même, à savoir que c'est bien joli les mots, mais qu'il faut passer à l'acte. Et donc c'est une pièce révolutionnaire qui a été reçue comme telle et qui a été jouée comme telle, avec énormément de succès. C'est véritablement un manifeste antiraciste pour les Noirs et Black Panthers en particulier, en 1961, quand ça a été joué. Mais, vous voyez, ça fait des niveaux multiples. Le niveau politique est indispensable, mais masqué. Mais masqué parce qu'il parle de l'aliénation, et c'est la face, si vous voulez, négative de la négritude, mais c'est une face essentielle. Et donc la négritude, vue sous son aspect négatif, appelle le passage au positif, c'est-à-dire à la lutte armée. Et le terme « armée » est dans le texte. Est-ce qu'on...
On pourrait écouter un premier texte, justement, pour entrer dans la pièce.
Alors, le premier texte est justement de l'ordre de la technique d'écriture, c'est-à-dire de ce jeu de reflets dans un miroir, et dans un miroir qui est plus qu'un miroir, puisque c'est sur scène qu'on voit, ou qu'on ne voit pas bien, parce qu'on n'est pas évidemment renseigné. Le principe de Jeunesse, c'est de piéger le spectateur, de faire croire au spectateur qu'il se passe quelque chose alors qu'il ne se passe rien. Donc vous allez avoir une présentation des comédiens par le maître d'œuvre qui s'appelle Archibald, mais en même temps, je ne le dis pas encore, mais méfions-nous de ce qu'il dit. C'est-à-dire tout ce qui est dit est sujet à caution. Tout ce qui est montré risque d'être simplement une apparence. Donc on est dans Genet, dans cette pièce comme dans les autres, mais plus peut-être dans cette pièce, puisque justement on peut penser qu'il y a un substrat politique immédiat. Non, le substrat politique, il est vraiment très souterrain, très masqué. Donc là, on a la présentation par Archibald des comédiens et de ce qui va suivre.
Silence ! Ce soir, nous jouerons pour vous. Mais afin que dans vos fauteuils, vous demeuriez à votre aise en face du drame qui déjà se déroule ici, afin que vous soyez assurés qu'un tel drame ne risque pas de pénétrer dans vos vies précieuses, nous aurons encore la politesse apprise parmi vous de rendre la communication impossible. La distance qui nous sépare, originelle, nous l'augmenterons par nos fastes, nos manières, notre insolence, car nous sommes aussi des comédiens. Mon discours terminé, tout ici. Ici se passera dans le monde délicat de la réprobation. Si nous tranchons des liens, qu'un continent s'en aille à la dérive et que l'Afrique s'enfonce ou s'envole. S'enfonce ou s'envole, mais qu'elle parte. Quittez cette scène, nous sommes mêlés à votre vie. Je suis cuisinier, madame lingère, monsieur étudie la médecine, monsieur est vicaire à Sainte-Clotilde, madame... Passons. Ce soir, nous ne songerons qu'à vous divertir. Nous avons donc tué une blanche. Seuls, nous étions capables de le faire comme nous l'avons fait, sauvagement. Et maintenant, écoutez, écoutez. Ah, j'oubliais. Voleur, nous avons tenté de vous dérober votre beau langage. Menteur, les noms que je vous ai livrés sont faux.
Oui, il vend la mèche, tout de suite. Donc, il nous mène en bateau pour nous faire croire que ceci, que cela, puis finalement, à la fin, bah, c'est rien, c'est un mensonge. Donc, où est le vrai ? Alors, le vrai, il est caché. Et c'est le troisième niveau, dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, c'est le secret, c'est la surprise, et c'est aussi quelque chose qui a été ajouté au fur et à mesure des manuscrits. C'est ce qui se passe ailleurs. Le vrai ne peut pas se représenter. Le réel, aussitôt qu'il est mis sur scène, est dénaturé. Il n'y a pas possible de montrer le réel. Le théâtre ne peut vivre que de fiction Alors, il y a deux mots. Il y a un mot, mais il y a deux sens. Évidemment, la fiction, c'est fictif. La fiction, c'est fictionnel. Si c'est fictionnel, c'est une invention imaginaire, mais à laquelle on peut croire. C'est tout le principe de l'illusion scénique. Si c'est fictif, c'est du rien. Donc, il joue constamment sur ces deux niveaux. Et pour être cohérent avec lui-même, il est obligé de mettre en dehors de la scène, en dehors de l'action visible, ce qui est important. Alors, ce qui est important, c'est le jugement que de véritables noirs, plus des nègres, mais des noirs, sont en train de mener pour juger et condamner un autre noir qui a été un traître. Et donc, ce traître-là, on le met en jugement dans une forêt, naturellement, on a besoin du secret, naturellement, l'autorité colonisatrice n'est pas loin, donc il faut faire attention, il faut distraire les témoins gênants en leur racontant des histoires. Et finalement, les nègres, c'est une histoire, c'est un montage, c'est une mascarade, c'est une plaisanterie que l'on offre à ces foutus blancs pour que leur attention soit détournée de la réalité. Autrement dit, rien de ce que l'on voit n'a d'importance, sinon simplement pour masquer. C'est un masque. C'est un masque. Alors vous voyez, tout est masque. La scène que vous voyez, c'est un masque. Et le noir que vous voyez sur la figure des nègres, c'est un masque. Finalement, peu importe leur tégument de peau, ce qui importe, c'est la couleur. Et la couleur, elle se fabrique avec du cirage. Et vous avez un mot terrible qui est lancé par Archibald à un moment. On va l'entendre dans son contexte. Que les nègres se nègrent, c'est-à-dire qu'ils deviennent ce qu'ils ne sont pas encore, puisque devenir quelque chose, c'est devenir une image. Donc on a affaire donc, à quelque chose tout à fait particulier, mais qui est venu à l'esprit de Genet tardivement. Donc ça, c'est la troisième élément de structure. Le premier, c'est donc tout ce qui est la théâtralité, avec, une fois de plus, pas seulement un élément esthétique et technique, mais un élément philosophique sur la conception de l'être, du paraître et de l'image. Deuxième niveau, c'est l'histoire d'amour, cette espèce de contrepoint positif à tout ce qu'il y a d'assez désagréable dans l'histoire de cette blanche assassinée. Et le troisième niveau, c'est véritablement le... Ils ont la direction politique vers un avenir qui est à construire. À partir du moment où on a éliminé, liquidé ce mauvais noir, on pourra construire le théâtre sur d'autres données, dit-il. C'est les mots même de Genet.
Alors si nous en revenons à la situation, le décor et la pièce elle-même telle que le spectateur la voit, et aussi bien sur une terre de la mise en scène de Jadis, de Blin, que celle de Wilson, il y a un échafaudage sur lequel se trouve le tribunal, composé donc de noirs masqués en blanc, et il y a en fait deux reines. Oui. Il y a une reine blanche, qui fait partie du tribunal, qui est au milieu, qui joue un grand rôle, et puis sur un échafaudage séparé, en principe, une reine noire.
Oui. Alors, il y a trois niveaux, disons, de structure, puis trois niveaux également de scénographie. C'est-à-dire qu'il y a l'horizontale où sont les noirs, il y a un podium surélevé où se trouve Félicité, qui est la reine noire, la mama Afrique, si vous voulez, et puis vous avez en haut la cour constituée des représentants de figures, lesquelles vous retrouvez d'ailleurs les mêmes figures dans le balcon. C'est la reine, c'est Irma, c'est le missionnaire, c'est l'évêque, c'est le général et c'est le valet. Donc là, il y a vraiment une ressemblance très proche entre les nègres et le balcon. Donc ces nègres, ces faux nègres sont masqués en blanc et ils font semblant, bien sûr, de regarder ce qui se passe. On leur raconte l'assassinat de la blanche et à un certain moment, ils vont se démasquer et venir sur le terrain juger. Mais ce jugement, c'est un jugement inopérant. Il va y avoir retournement à ce moment-là. C'est eux qui vont se faire juger, c'est eux qui vont se faire condamner à mort et exécuter. Et donc, à la fin, tous les noirs, les faux et les vrais, tous les nègres, les faux et les vrais, se démasquent et deviennent des noirs. Mais tout ça, naturellement, vous voyez, dans un salmigondi d'aller-retour qui rend la pièce assez compliquée à déchiffrer. Je dois dire que j'ai vu la mise en scène de Blin et que je ne suis pas le seul, je pense. À l'époque, je n'ai rien compris.
Mais c'était un enchantement.
Mais c'était un enchantement. Oui. Mais un enchantement pour, évidemment, l'habileté avec laquelle Roger Blin réussissait à rendre compte de tout ces, disons, ce miroitement de sens auquel on peut être sensible, même si le sens en question, on ne le saisit pas absolument.
Et là, nous allons écouter maintenant donc deux passages, celui de la pose blanche et celui de la noire félicité.
Oui, alors vous avez la vraie reine qui est félicité, et puis il y a un moment où Vertu endosse, une fois de plus, c'est du théâtre dans le théâtre, etc., elle endosse l'identité de la reine blanche. Elle est prostituée de profession, mais à ce moment-là, et c'est une idée évidemment qui lui est venue tout à fait tard et qu'il a trouvée intéressante et qu'il a gardée parce qu'elle est une sorte de dédoublement de la reine occidentale. Elle joue à ce moment-là la reine occidentale. Et la véritable reine qui est perchée sur le podium, elle est censée dormir à ce moment-là. Et pendant que cette fausse reine dit ce qu'elle a à dire, la cour est inquiète parce que la fausse reine, qui est une négresse, est en train de prendre, si vous voulez, un peu trop d'importance et essaye de réveiller la reine en question, la reine blanche en question. Je me lève parce que je vais donner la réplique. Alors, on est dans les pages
109.
Non,
53,
56.
C'était la 109,
alors
109, 110.
Non, mais on suit. 53, c'est Vertu, doucement, comme somnambulique, qui joue la reine occidentale. Ah oui, on n'a pas joué, oui, c'est vrai, tu as raison. On n'a pas joué le troisième niveau, c'est-à-dire le niveau du secret, quand on a affaire à la révélation de ce qui est évidemment masqué, on ne nous le dit pas. Parce que le personnage du vrai noir fait des allers-retours entre la scène et la forêt, il est là, et on essaye de l'évincer. Lui, il voudrait voir le spectacle, comme un simple curieux. Et on lui dit, non, cette place n'est pas là, pas là-bas. Et tu viendras quand ça sera fini. Et il revient de temps en temps, on lui dit, alors, comment ça marche? Et finalement, il va venir une dernière fois et dire, ça y est, c'est fini. Et à ce moment-là, tous les masques se défont et les noirs apparaissent pour tous. Donc, c'est, tu as raison, tout à fait à la fin. Soudain, lui, il a l'indication scénique, soudain, dans la coulisse, on entend une, puis plusieurs explosions de pétards, et sur le velours noir des décors, les reflets d'un feu d'artifice. Enfin, tout se calme, les nègres qui étaient accroupis derrière Félicité se lèvent. Alors, le personnage du vrai noir porte un nom de bateau, il s'appelle Ville de Saint-Nazaire. Ville de Saint-Nazaire, c'est mademoiselle.
Je vous annonce.
Alors, d'un même mouvement et avec solennité, la cour enlève ses masques. On voit apparaître les cinq visages noirs. Alors, je vais faire le personnage multiple de village, de valet, etc., etc. Il est mort.
Il a payé. Il faudra nous habituer à cette responsabilité. Exécuter nous-mêmes nos propres traîtres.
Tout s'est passé dans les formes.
Ne craignez rien. Non seulement les formes, mais l'esprit de la justice ont été appliqués.
La défense.
Parfaite. Éloquente. Mais elle n'a pas su fléchir les jurés. Et le jugement à peine rendu l'exécution.
Et maintenant?
Maintenant, alors qu'un tribunal condamnait celui qui vient d'être exécuté, un congrès en acclamait un autre. Il est en route. Il va là-bas organiser et continuer la lutte. Notre but n'est pas seulement de corroder, de dissoudre l'idée qu'il voudrait que nous ayons d'eux. Il nous faut aussi les combattre dans leur personne de chair et d'os. Vous n'étiez là que pour la parade, derrière.
Nous savons. Grâce à vous, grâce à nous, on n'a rien deviné du drame qui se passe ailleurs. Voilà, c'est l'explication, mais elle vient tardivement. Elle vient à la page 110, alors que la pièce en comporte 130. Alors, ensuite, on a la fameuse déclaration de royauté alternée de la part de la fausse blanche, d'une part. Alors, c'est Vertu, la prostituée, qui joue la fausse reine occidentale.
Je suis la reine occidentale à la pâleur de lys. Résultat précieux de tant de siècles travaillés pour un pareil miracle. Immaculée, douce à l'œil et à l'âme. Soit que je sois en bonne santé, éclatante et rose, soit qu'une langueur me mine, je suis blanche. Si la mort me fixe, c'est dans la couleur de victoire. Ô noble pâleur, colorez mes tempes, mes doigts, mon ventre. Œil, iris aux nuances délicates, iris bleuté, iris des glaciers, iris pervenche, violette, réséda, tabac, gazon anglais, gazon normand, par vous. Mais que voit-on ? Blanche, c'est le lait qui m'indique. C'est l'Ulys, la colombe, la chaux vive et la chair. Conscience, c'est la Pologne et son aigle et sa neige. Neige, c'est l'innocence et le matin, sauf qu'un peu d'ombre. Restez sous mon aisselle, un cerne bistre violet presque noir. Gagne ma joue, la nuit.
Je suis mort dans la cale des négriers.
Je t'aime.
Je meurs à n'en plus finir.
Assez ! Et faites les taire, ils ont volé ma voix. Au secours, Ariane, ma sœur. De quel amour je meurs ?
Madame, je meurs.
À moi, vierge du Parthénon, ange du portail de Reims, colonne valérienne, Musset, Chopin, Vincent d'Indy, cuisine française, soldat inconnu, chanson tyrolienne, principe cartésien, ordonnance de le nôtre, coquelito, go, bleuet, un brin de coquetterie, jardin de curé.
Madame, nous sommes là.
Ah, vous me faites du bien. Je me croyais abandonnée. C'est qu'il me fera du mal.
Alors, quelques indications, parce que c'est pas clair, évidemment. J'étais village quand je disais je suis mort dans la cale des négriers, et j'étais le valet et la cour quand je disais madame, nous sommes là. C'est-à-dire, on essaye de soutenir la reine occidentale qui se réveille quand elle pousse ce cri assez. Donc, elle a été réveillée par les proclamations de vertu. Donc, ça, c'était la déclaration de royauté de la fausse blanche. Et. Puisque c'est vertu, et puis on a ensuite, dans le même registre, la véritable déclaration de haine du blanc, et ça se présente en deux parties qu'on a raccordées, et c'est à ce moment-là Archibald qui parle, donc c'est Mademoiselle Archibald.
Or ce soir, mais ce soir seulement, nous cessons d'être des comédiens, étant des nègres. Nous sommes sur cette scène semblable à des coupables qui, en prison, joueraient à être des coupables. Je vous ordonne d'être noirs jusque dans vos veines et d'y charrier du sang noir. Que l'Afrique y circule, que les nègres se nègrent. Qu'ils s'obstinent jusqu'à la folie dans ce qu'on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans l'œil jaune, dans leur goût cannibale, qu'ils ne se contentent pas de manger les blancs, mais qu'ils se cuisent entre eux, qu'ils inventent des recettes pour les tibias, les rotules, les jarrets, les lèvres épaisses, que sais-je ? Des sauces inconnues, des hoquets, des rots, des paix qui gonfleront un jas délétère, une peinture, une danse criminelle, que si l'on change à notre égard, nègre, ce ne soit par l'indulgence, mais la terreur.
Donc ça, c'est la haine directe, mais vous voyez, ce qui est ambigu, c'est que toute la pièce repose sur la double face du comédien. Le comédien joue. Naturellement, s'il joue, il se métamorphose, ce n'est pas lui, mais en même temps, attention, dit-il, vous n'êtes pas seulement des comédiens, vous êtes aussi des noirs. Donc la valeur noire est liée aux politiques. Donc les deux sont liés, mais en même temps, quand l'un est-il ceci et quand est-il autre, c'est ce qui n'est pas dit de façon obvie, tout à fait claire. C'est à nous de nous débrouiller, de circuler. Alors, ensuite, après cette haine du blanc, on a la vision de l'autre côté. on va avoir les blancs vus par les noirs. Alors comment ça se passe? Eh bien, ça se passe avec Diouf. Diouf a joué, Diouf qui est le vicaire, qui est donc un noir, mais un noir un peu suspect, puisqu'il est prêtre, dans cette mesure, il est passé du côté de la colonisation religieuse. Donc Diouf, il est choisi pour jouer, avec Village, le meurtre de la Blanche. Donc la Blanche est déjà là, normalement, dans le catafalque, mais on va nous rejouer le meurtre. Donc Village va faire la cour à Diouf. On voit les apprêts, comment Diouf se transforme en femme. Et donc, il y a encore là un nouveau niveau de théâtre dans le théâtre, puisqu'on met en scène la mère de l'assassiné qui demande ses dragées, etc. Donc, une petite scène à l'intérieur de cette scène qui est déjà elle-même à l'intérieur, etc. Donc, Diouf, qui a été la Blanche, qui est costumée en blanche, assassinée, va au paradis. Alors naturellement, elle a été souillée, puisqu'elle a été violée et assassinée par le noir, mais la cour, malgré tout, l'accueille. Et la reine lui ouvre, non pas les bras, mais la laisse venir avec eux. Donc vous avez Diouf qui est tout à fait en haut, au troisième étage avec la cour, et il voit en bas les noirs. Donc vous voyez, c'est une question d'espace, c'est pas seulement une question de nous et vous. Mais il va mélanger les deux pronoms. Donc, faites attention aux pronoms, ils sont ambigus, ils sont repris naturellement pour rectifier, mais tout ça passe très vite quand vous êtes simplement spectateur. Donc, c'est ce qu'on va lire, la tirade de Diouf, parlant à la fois comme un noir et comme un blanc. Donc, il est blanc par son costume, il est blanc par, disons, sa mentalité, c'est un modéré, il voudrait bien que tout s'arrange, mais en même temps, il n'y avait pas question, il n'y a pas d'accord possible entre eux. Donc, ça va être quelque chose d'assez ironique dans la façon dont Diouf va défendre les Blancs, tout en sachant, bien sûr, qu'il a perdu d'avance, puisqu'il est au milieu des Noirs. Alors, c'est... Je suis, pour l'instant, Bobo. Alors, il y a trois négresses, on peut les dire, elles appelées comme ça, il y a trois... Parce que noir, c'est la réalité. Négresse, c'est le comédien qui joue, etc. Donc, vous avez Bobo, Vertu, et puis une troisième. Donc, les trois, vous les avez vus, vous avez vu le spectacle. Donc, Diouf, lui, il est une fausse femme. Donc, vous avez Bobo, qui est toujours extrêmement agressive. Elle en veut beaucoup à Vertu, qui est une très belle fille, et qui est aimée par Village. Donc, elle jette toujours de l'huile sur le feu, elle les provoque sans arrêt. Alors là, c'est le Diouf en question qui est un peu son souffre-douleur. Vous, monsieur Diouf, vous vivez une mort curieuse. Est-ce qu'il y fait bon?
Il y fait une drôle de lumière.
Dites, monsieur le vicaire général, qui voyez-vous? Répondez, Diouf. Regardez par leur regard comment sont les rois. Du haut de vos yeux bleus, du haut de ces miradors, que voyez-vous?
Je nous vois ainsi. Je suis là-haut et non par terre. Et je connais peut-être la vision de Dieu.
Êtes-vous une blanche?
Il faut d'abord vous dire qu'ils mentent ou qu'ils se trompent. Ils ne sont pas blancs, mais roses ou jaunâtres.
Êtes-vous donc une rose?
Je la suis. Je me déplace dans une lumière qui émette nos visages, qu'ils se renvoient de l'un à l'autre. Nous, c'est-à-dire vous, nous sommes toujours étouffants dans un air lourd. Mais d'abord, cela commença quand je dus quitter votre monde. Le désespoir me vida, mais vos insultes et vos hommages peu à peu m'exaltaient. Une vie nouvelle pénétrait en moi. Je sentais le désir de Village, comme sa voix était rauque et son regard... humble et vainqueur. Un instant, je fus grosse de ses œuvres.
Êtes-vous fière?
Fière, non. Je ne comprends plus rien à nos préoccupations. Des rapports nouveaux s'établissent avec les choses, et ces choses deviennent nécessaires. C'est en effet une très curieuse nouveauté, la nécessité. L'harmonie me ravissait. J'avais quitté le règne de la gratuité où je vous voyais gesticuler. même cette haine que nous leur portons et qui monte vers eux, je ne la distinguais plus. J'apprenais par exemple qu'ils ont la possibilité de représenter de vrais drames et d'y croire.
Petite allusion au théâtre d'illusion.
Quel est le sens de l'intervention de cette scène?
C'est-à-dire qu'il est question de présenter les Blancs sous leur meilleur jour, mais en même temps, il est noir, donc il prête aux Blancs ce que les Noirs subissent ou ressentent. Alors, il raconte sa propre histoire, le désespoir me vida, mais vos insultes et vos hommages peu à peu m'exaltaient. C'est-à-dire que là, on a vraiment un élément essentiel chez Jeunesse, c'est à coup de violence que la réalité peut se manifester, et non seulement la réalité, mais que les rapports entre les hommes peuvent s'instituer. Il n'y a pas de possibilité de dialogue qui soit à un niveau, on pourrait dire, de sérénité. C'est toujours dans la tension, c'est toujours dans la destruction, au moins désiré, que quelque chose de nouveau peut se créer. Et c'est pourquoi le terme d'harmonie apparaît, mais cette harmonie est bâtie, créée, à partir, évidemment, de la distorsion, de la désharmonie.
Est-ce qu'à ce propos, on avait prévu de lire la grande tirade d'Ahomet ?
On va la lire, bien sûr.
C'est comme l'envers de celui-ci.
Mais on l'a réservée pour la fin, parce que c'est la plus belle.
Oui.
Donc, on peut peut-être la réserver.
On peut
si vous voulez, on peut la lire tout de suite.
Il y a aussi l'élément comique.
Et oui, l'élément comique.
Notamment dans la mort du missionnaire.
Oui. L'élément comique apparaît très nettement à la lecture. Évidemment, à la présentation, j'ai vu un certain nombre de mises en scène des nègres. Il y en a peu qui fassent rire, malgré la volonté de Genet, malgré la volonté de Bob Wilson. Mais malgré tout, l'écriture est finement comique, c'est-à-dire qu'elle est satirique plutôt. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de surenchère dans l'éloge, par exemple, ou dans le décalage poétique qui est censé exciter au moins un sourire. Et à la fin, ça l'est vraiment. C'est non seulement comique, mais c'est grotesque. Parce qu'à la fin, comme je vous disais, la cour descend de son ciel, se mêle aux Noirs pour venir les juger et se faire juger. Et ils se font juger et ils sont tués les uns après les autres. Mais ils sont tués par des mots. On n'a pas besoin, évidemment, de fusils. Et donc, le geste suffit pour qu'ils s'écroulent. Et chacun fait sa propre raison funèbre. Chacun a tour de rôle, et la reine en dernier, beaucoup plus digne que les autres. Alors, naturellement, ces notables, ces figures, comme ils les appellent dans le balcon, ces figures sont dérisoires. Ils se déboutonnent. On peut dire qu'ils deviennent des véritables lavasses. Alors, aussi bien le général que le missionnaire, du côté du valet, c'est plus attendu, mais du côté du missionnaire, c'est une véritable débandade intérieure. Alors, c'est le texte que vous allez entendre. Donc, le missionnaire, il va mourir d'une curieuse façon.
Ces enfers que je vous ai apportés, vous oseriez m'y pousser ? Risible, mes amis. L'enfer m'obéit. Il s'ouvre ou il se ferme sur un signe de ma main baguée. J'ai béni des époux, baptisé des négrillons, ordonné des bataillons de curés noirs, et je vous ai apporté le message d'un crucifié. Je vous entends. Car si l'Église parle toutes les langues, elle les entend également toutes. Vous reprochez à ce Christ sa couleur. Réfléchissons. À peine né, qu'un prince noir, un peu sorcier, venait l'adorer. Non, 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 messieurs, messieurs, ne faites pas cela. Madame, mesdames, je vous en prie. Ce serait trop horrible, au nom de la Vierge du Ciel, intervenir auprès de vos maris, auprès de vos frères, de vos amants. Messieurs, non, 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 pas ça. D'abord, je n'y crois pas. Non, non, je n'y crois pas. L'enfer que je vous ai apporté... J'ai maltraité vos sorciers. Oh, pardon, pas vos sorciers. Messieurs, vos thaumaturges, vos prêtres, votre clergé. J'ai blasphémé, plaisanté, je dois être puni, mais pas ça. Non, messieurs, messieurs, je vous en prie, ne faites pas le geste, ne dites pas la formule. Non, 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 non.
Assez, à l'abattoir.
Châtrée, je suis châtrée. Je tiens au dur et ferme la canalisation. question.
Au suivant.
Donc, extraordinaire passage comique qui peut paraître déplaisant d'ailleurs à certains, mais qui est tout gêné. Et là, c'est une sorte de parodie de ces récits de morts, de missionnaires et de martyrs dont on abreuvait les enfants dans les collèges religieux, il faut le dire en passant.
Bien sûr.
Je me rappelle les bandes dessinées où on voyait Saint Isaac Jogues brandissant deux moignons sanglants, par exemple. On nous faisait lire ça dans les journaux qui s'appelaient, par exemple, Jésuites missionnaires.
Non, il choisit évidemment la victime la plus scandaleuse. Et qui provoque le scandale, puisque c'est un missionnaire, il est châtré, donc le sexe, tout ça, il aime sans arrêt y revenir. Donc, après ce comique, qui est vraiment une part importante de toute la fin, du moins, puisque vous avez, je vous dis, la mort, le massacre des différents notables, il y a du sérieux. Et le sérieux est représenté, et une fois de plus, c'est tout à fait exceptionnel, je dirais, par l'amour que Village porte à Vertu. Et c'est ce qu'on va vous lire maintenant, l'histoire de ces deux personnages, dont l'un est extrêmement touchant. Et c'est rare, une fois de plus, chez Genet, c'est Village, qui est amoureux de Vertu, mais qui en même temps est condamné à mimer, à jouer le meurtre de la Blanche. Il ne veut pas le faire parce qu'il a peur que justement ça déteigne sur lui, que ça passe du tort à sa relation qu'il veut belle avec Vertu. Donc il est excité par Bobo, pour qu'il aille jusqu'au bout du jeu, mais justement, il se retient au maximum. Et finalement, il y va, mais ça donne à sa relation avec Vertu toujours quelque chose de douloureux, d'inachevé, d'impossible. Et c'est pourquoi c'est seulement dans la dernière version que Genet a réussi à boucler la boucle et à faire quelque chose qui ressemble, vous allez l'entendre, à un chant d'amour. Alors là, on est tous les deux dans des rôles tout à fait, vous allez voir, bizarres.
Non, non. Page 45.
Page 45, alors. C'est Village. Marie est Village. Moi, à l'occasion, je serai Vertu.
Madame, je ne vous porte rien de comparable à ce qu'on nomme l'amour. Ce qui se passe en moi est très mystérieux et ma couleur ne saurait en rendre compte. Quand je vous vis.
Attention, Village, n'allez pas évoquer votre vie hors d'ici.
Quand je vous vis, sur de hauts talons, vous marchiez dans la pluie. Vous aviez une robe de soie noire, des bas noirs, un parapluie noir et des souliers vernis. Oh, si je n'étais née en esclavage, une étrange émotion m'eût bouleversée. Mais nous nous déplacions, vous et moi, à côté du monde, dans sa marge. Nous étions l'ombre ou l'envers des êtres lumineux. Quand je vous vis, j'eus tout à coup, je crois, durant une seconde, la force de nier tout ce qui n'était pas vous et de rire devant l'illusion. Hélas, mes épaules sont bien fragiles. Je ne pus supporter la condamnation du monde. Et je me suis mis à vous haïr. Quand pour vous, tout en vous m'eût fait entrevoir l'amour et que l'amour m'eût rendu insupportable le mépris des hommes. Et ce mépris insupportable, mon amour pour vous, exactement, je vous hais. Je ne sais pas si vous êtes belle. J'ai peur que vous ne le soyez. J'ai peur de la ténèbre crépitante d'étincelles que vous êtes. Ténèbre, mère auguste de ma race, ombre tunique exacte qui me gante de l'orteil à la paupière. Long sommeil où le plus fragile de vos enfants voudrait s'enrouler. Je ne sais pas si vous êtes belle, mais vous êtes l'Afrique. Ô nuit monumentale, et je vous hais. Je vous hais de remplir de douceur mes yeux noirs. Je vous hais de m'obliger à ce dur travail qui consiste à vous écarter de moi, à vous haïr. Il suffirait de peu de choses pour que me réjouisse votre visage, votre corps, vos mouvements, votre cœur.
Prenez garde, Village.
Je vous hais. Mais laissez-moi lui dire ou vous dire tout le mal que j'endure. Je rappelle ma souffrance à voir ce grand corps luisant marcher sous la pluie. L'eau coulait sur ses pieds.
Sur ses pieds noirs.
Sous la pluie. Vertu marche sous la pluie à la recherche des blancs, vous le savez. Non, non. Il n'y aura pas d'amour pour nous.
Alors, évidemment, à ce moment-là, c'est le creux de la vague, mais ça se termine relativement bien. Une fois de plus, c'est tout à fait paradoxal, et ça a irrité finalement Genet. Il trouve toujours que les duos d'amour sont ridicules. Alors là, c'est Village, et moi je suis Vertu.
Mais si je prends tes mains dans les miennes, si je t'entoure les épaules, laisse-moi faire. Si je te serre dans mes bras.
Ah, tous les hommes sont comme toi, ils imitent. Mm-hmm. Tu ne peux pas inventer autre chose.
Pour toi, je pourrais tout inventer. Des fruits, des paroles plus fraîches, une brouette à deux roues, des oranges sans pépins, un lit à trois places, une aiguille qui ne pique pas, mais des gestes d'amour, c'est plus difficile. Enfin, si tu y tiens.
Je t'aiderai. Ce qui est sûr, au moins, c'est que tu ne pourras pas enrouler tes doigts dans mes longs cheveux blonds.
Dans la mise en scène de Robert Wilson, cette scène est répétée plusieurs fois.
Deux fois. Oui.
Alors, cette histoire d'amour, est-ce qu'il faut la prendre au sérieux? Est-ce qu'on peut?
Et on peut la prendre au sérieux, et il y a eu une idée scénique qui est évidemment dans le sens du sérieux. Il fait que les deux personnages tournent le dos au spectateur et s'en vont. C'est-à-dire, au lieu de venir pour une fin qui remettrait les comédiens dans le bain de la théâtralité, ils fichent le camp en tournant le dos et ils s'en vont vers la vérité, vers la réalité, vers la négritude. Autrement dit, ils ont trouvé le biais pour sortir du théâtre et rentrer dans le réel. Donc là, il faut prendre l'amour au sérieux. Et tout ça se fait sur un menuet de Mozart. Donc il tenait beaucoup à ce menuet.
De Don Juan. On n'a pas entendu, il me semble.
Non, non. Bob Wilson préfère le jazz.
Oui. Oui, et alors on aborde peut-être ce thème de l'exaltation de la négritude.
Oui. Même. Oui. L'exaltation de la négritude, évidemment, il est sous-jacent, il parcourt l'ensemble de la pièce, mais il est réservé à un personnage en particulier qui est Félicité. Félicité, c'est Maman Afrique, elle a son lieu particulier, un podium à mi-hauteur, et c'est elle qui lance les grandes proclamations lyriques. Et c'est quelque chose, évidemment, qui est particulièrement réussi d'un point de vue poétique. Et je me souviens très bien de la scène en 1959. C'est donc, elle est particulièrement marquante. Mais elle est pas mal réussie aussi chez Bob Wilson. Donc, vous allez l'entendre. Elle est donnée en deux moments. C'est à toi.
Dahomey, Dahomey, à mon secours, nègre de tous les coins du monde. Venez, entrez. Mais pas ailleurs qu'en moi, que me gonfle votre tumulte. Venez, bousculez-vous, pénétrez par où vous voudrez, la bouche, l'oreille, ou par mes narines, narines conques énormes, gloire de ma race, pavillon ténébreux, tunnel, grotte béante, où des bataillons enrhumés sont à l'aise, géante à la tête renversée, je vous attends. Entrez en moi, multitude, et soyez pour ce soir seulement ma force et ma raison. Dahomey, Dahomey, à mon secours, nègres, tous, sous vos blancs parasols, messieurs de Tombouctou, entrez, mettez-vous là. Tribu couverte d'or et de boue, remontez de mon corps, sortez. Tribu de la pluie et du vent, passez. Prince des hauts empires, prince des pieds nus et des étriers de bois, sur vos chevaux habillés, entrez, entrez à cheval, au galop, hop, hop, hop là! Nègre des étangs, vous qui pêchez les poissons, avec votre bec pointu, entrez, Nègre des docks, des usines, des bastringues, nègre de chez Renault, nègre de Citroën, vous autres aussi, qui tressez les joncs pour encager les grillons et les roses, entrez et restez debout. Soldats vaincus, entrez. Soldats vainqueurs, entrez. Serrez-vous encore, posez vos boucliers contre le mur. Vous aussi, qui déterrez les cadavres pour sucer la cervelle des crânes, entrez sans honte. Vous, frères, sœurs en mêlée, incestes mélancoliques et qui marchent, passez, barbares, barbares, barbares. Venez, je ne peux vous décrire tous, ni même vous nommer tous, ni nommer vos morts, vos armes, vos charrues, mais entrez, marchez, doucement, sur vos pieds blancs. Blanc, non, noir. Noir ou blanc ? Ou bleu ? Rouge, vert, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, bois, que sais-je ? Où suis-je ? Les couleurs m'épuisent. Tu es là ? Un fricourin cambré, à la cuisse oblongue. Afrique boudeuse. Afrique travaillée dans le feu, dans le fer. Afrique aux millions d'esclaves royaux. Afrique déportée, continent à la dérive. Tu es là. Lentement, vous vous évanouissez. Vous reculez dans le passé. Les récits de naufragés, les musées coloniaux, les travaux des savants. Mais je vous rappelle ce soir pour assister à une fête secrète. C'est un bloc de nuit compact et méchant qui retient son souffle, mais non son odeur. Vous êtes là. Ne quittez pas la scène sans mon ordre. Que les spectateurs vous regardent. Une somnolence profonde, visible presque, s'empare de vous, se répand, les hypnotise. Ah ! Tout à l'heure, nous descendrons parmi eux.
Extraordinaire passage.
Ah, c'est un très beau passage. Qui a été un peu tronqué par Bob Wilson. Vous voulez qu'on parle un peu de la
vie? Oui, parce que avant cela, ce passage nous montre bien un élément essentiel de la pièce, c'est le style poétique.
Eh oui.
Qui égale celui de Claudel d'un côté, et vous voyez ici aussi dans les grandes énumérations, celui de sa jeune Perse. Finalement, on se situe tout à coup à des niveaux extraordinairement élevés, je trouve, de style poétique et épique, une sorte d'emballement du langage, où on quitte complètement l'action dramatique d'une pièce de théâtre ordinaire. Et ces moments-là, on les a que chez les plus grands auteurs depuis Shakespeare.
Et d'ailleurs, Genet admirait, autant qu'il puisse admirer quelqu'un, Claudel et Beckett. C'était les seuls, et Shakespeare. Et Dostoïevski. Mais en dehors de ça, il n'y avait personne. Non, je dis, pour les auteurs de théâtre, il n'y en avait guère que deux. Et donc, les metteurs en scène essayent de rendre compte de cela, mais pas nécessairement, puisque si on parle d'un mot de la mise en scène de Bob Wilson, vous voulez qu'on en dise quelques mots ?
Oui, alors, il faut dire une chose avant cela, c'est que ce que vous avez si bien exposé dans votre édition, c'est que Genet est d'une extraordinaire minutie dans les didascalies. Il a tout prévu, tout organisé, tout décrit. Le metteur en scène, en principe, n'a plus aucune liberté, exactement comme avec Beckett, d'ailleurs.
Beckett est aussi
minutieux. Mais la chose absolument extraordinaire que vous signalez, c'est qu'en fait, il n'avait jamais été au théâtre, pratiquement.
Sinon, il allait au Châtelet pour voir du Jules Verne.
Il n'y a pas mieux, évidemment, mais à part ça... Donc voilà un homme qui écrit des pièces de théâtre, qui définit exactement ce que veut dire la mise en scène et le jeu des acteurs, et qui finalement n'a jamais vu de pièces littéraires.
Oui.
C'est un phénomène tout à fait étonnant.
Mais ce qu'il y a quand même de très positif, c'est qu'il a fait confiance à Blanc. Et il n'a fait confiance dans sa vie d'auteur dramatique qu'à deux seuls metteurs en scène. Le premier avec toute sa lucidité, le deuxième avec une certaine, on pourrait dire... certains relâchements dans ses exigences. Le premier, c'est Roger Blin, et le second, c'est Patrice Chéreau, quand il a remonté les paravents. Mais avec Blin, il y avait quelque chose de tout à fait particulier, c'est que Blin sauvegardait sa propre indépendance. Il disait carrément à Genet, ça je ne peux pas le faire. Alors que Genet avait des exigences absolument impossibles à réaliser, dans la mesure justement où non seulement il ne connaissait pas le fonctionnement technique du théâtre, mais il ne voulait pas le connaître. Et donc il exigeait que les choses soient faites comme il les imaginait. Et Blin avait cette force de caractère pour lui dire ça, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas, mais je fais autre chose. Et il a tellement fait autre chose que dans la deuxième édition, par exemple, des Paravents, il a réintégré dans son texte des indications scéniques qui viennent directement de la mise en scène de Blin. Autrement dit, il y a eu avec Blin un véritable compagnonnage. Et c'est à ce moment-là qu'il a véritablement connu le théâtre, au moment où il a participé de très près à la mise en scène des Paravents. Mais c'est beaucoup plus tard, bien sûr, beaucoup plus tard. C'est en 1966, alors que là, on est en 1959, où il n'est absolument pas intervenu. Il paraît, mais c'est peut-être une légende, qu'il serait intervenu dans la mise en scène de Haute Surveillance qui a été jouée par Jean Marchat au Théâtre des Mathurins en 1959, si je ne me trompe pas. Donc, mais on n'est pas sûr, on n'a absolument aucun détail. Il semblerait qu'il ait voulu montrer un peu de quoi il était capable, mais aucune trace n'est restée. Mais incontestablement, avec Blin, il y a eu un travail de collaboration qu'il n'a évidemment fait qu'avec lui. Il a laissé carte blanche à Patrice Chéreau, il lui a envoyé des lettres généreuses en lui disant presque ingénument « J'admire ce que vous faites, mais ce n'est pas du tout ce que je pense. Bon. »
Alors justement, peut-être je dirais un mot, puisque certains d'entre vous ont dû voir déjà le spectacle de Robert Wilson, ici même, et d'autres, tout le monde, ira le voir.
Oui, alors Wilson, il a une conception de la mise en scène, je dirais, à l'ancienne. Les metteurs en scène il y a 50 ans, et c'est tout à fait, disons, vérifiable, parce que ça laisse des traces, écrivaient leur mise en scène avant même de monter sur le plateau. C'est-à-dire qu'ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient faire, et ensuite ils amenaient la lumière, le plateau, le corps des comédiens et le texte en dernier, pour rentrer dans le cadre de ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce que faisait, par exemple, pour ne pas le nommer, Jean-Pierre Vincent, il y a une cinquantaine d'années, ou peut-être pas 50, mais pas loin, et puis c'est ce que fait Bob Wilson d'une façon tout à fait déclarée. Il dit « Quand je commence un travail, c'est une citation, hein, je fais d'abord une mise en scène, je fais d'abord une mise en scène silencieuse, et ensuite j'ajoute, quand même, c'est fort comme mot, j'ajoute la musique, les sons, le texte. » Le résultat, c'est que, naturellement, il monte son propre spectacle, il monte ses nègres, il ne monte pas les nègres. Il ne monte pas les nègres parce que justement il évacue complètement la dimension politique, il ne monte pas les nègres parce qu'il coupe d'un tiers au moins le texte, mais il fait autre chose qui est très beau, qui est même remarquable. Et il a justement cette qualité d'intégrer la musique au texte. Alors là vraiment il fait un travail qui n'est pas simplement de collage, mais un travail d'osmose. D'imprégnation, il y a un dialogue entre le saxophoniste et puis le personnage qui parle, qui est tout à fait remarquable. Plus une musique de jazz bien choisie, qui enveloppe l'ensemble du spectacle et qui crée vraiment une atmosphère extrêmement prenante. Donc là, c'est tout à fait réussi. Pour le reste, ben, il ne faut pas attendre de Bob Wilson qui vous propose une vision politique des nègres. Il ne fait pas, évidemment, les nègres que les Américains de 1961.
Le premier tableau qu'il a rajouté, qui n'est pas dans le texte, on voit un certain nombre de personnages aux gestes disloqués qui sont sans armes et qui sont mitraillés, qui meurent un par un.
Oui, mais ils meurent en faisant des gestes, disons, de silhouette dans un théâtre d'ombre. C'est plutôt, vous voyez... Là, ils sont figés, mais comme on peut l'attendre sur le boulevard du crime en 1860. Donc il y a ce choix qui est évidemment discutable, mais qui en même temps, du point de vue du metteur en scène, est totalement cohérent. Mais les autres mises en scène n'arrivent pas vraiment non plus à tirer au clair la direction triple de la pièce, puisque... Si on résume, le politique est intégré souterrainement au théâtral, le théâtral est philosophique, tout ça exige une très grande qualité de jeu. Or, il est extrêmement difficile de trouver des comédiens qui soient capables, en collectivité, de réussir cet ensemble organique. J'ai vu la mise en scène de Blanche, j'ai vu la mise en scène d'Alain Olivier, qui était une des meilleures dans la sévérité. Alors là, on ne brillait pas du tout. Ce n'était pas le genre d'Alain Olivier. J'ai vu une autre, par exemple, celle de Gilles Chavassieux, qui lui travaillait plutôt sur le folklore, sur une négritude un peu festive. Alors là, il ne restait pas grand-chose. Ce n'est pas la même chose chez Bobuston. Ce n'est pas vraiment le folklore. Il y a quelque chose de plus profondément africain, ne serait-ce que par la musique. Africano-américain, bien sûr, grâce à cette musique de jazz. À mon avis, le jazz est particulièrement bien choisi. Donc on a affaire à chaque fois à quelque chose qui est différent, mais qui ne répond pas à ce que l'on attend. La plus audacieuse des mises en scène, disons, de la négritude a été réalisée par Peter Stein, qui a joué avec des Blancs. Et vous savez que Genet ne voulait pas que la pièce soit jouée avec des Blancs. Peter Stein lui a demandé l'autorisation, et finalement, il a d'abord dit non, et finalement, il a accepté. Or, Peter Stein a mis en scène la pièce comme véritablement un brûlot politique. Il a accompagné... Et ce n'était même pas accompagné, il a fait pour le programme un véritable livret de l'état d'Afrique, social, économique, avec une carte, que j'ai toujours, une grande carte d'Afrique, avec le PIB et tout le reste, de telle sorte qu'on voit qu'on est plongé en pleine Afrique contemporaine. Là, c'était aller jusqu'au bout de l'africanité, disons, revendicative. Mais ça, c'est Peter Stein qui l'a fait. Et il est le seul, à ma connaissance, parce que les nègres, finalement, sont rarement joués, étant donné la difficulté à trouver des comédiens noirs, d'une part, et même quand c'est des comédiens blancs avec Peter Stein, en Allemagne, ça n'a pas été remonté beaucoup. À la différence des autres pièces, même quand une pièce est lourde comme les paravents, elle est montée, elle a été beaucoup montée, elle est encore montée.
Et vous, Marie, qu'est-ce que vous avez pensé de ce... de mise en scène? De la mise en scène de Robert Wilson.
Ben, je suis d'accord avec Michel. Non, c'est vrai, je rejoins son propos. C'est très chaud à l'américaine, mais il y a plein de choses touchantes, moi je dirais, à certains moments. Et j'ai bien aimé Village et la grande vertu.
Ce déséquilibre.
Déséquilibre est intéressant et l'aspect lumière aussi participe à la joie du spectacle. Voilà, on s'en prend plein les yeux et les oreilles. Donc, mais c'est vrai que c'est très éloigné du propos de.
Je pense. Enfin, c'est un choix qui déséquilibre le propos. Ouais, c'est pas vraiment éloigné en tant que tête.
Mais c'est l'intérêt.
Tu permets ?
Ah ben, je t'en prie.
J'ai là les photos du spectacle monté par Blin. Donc, si vous trouvez l'émission, vous verrez ce que c'est que la première mise en scène. Et vous verrez assez curieusement que Bob Wilson est très fidèle à cette mise en scène. C'est-à-dire que vous avez des maquillages et
des masques.
Ils ont des costumes qui sont très voisins. C'est-à-dire que vous avez les trois niveaux. Ça, c'est presque obligatoire, mais pas obligatoire vraiment, parce que j'ai vu Alain Olivier le monter à plat. Donc, il n'y a pas d'obligation vraiment, mais on a là quelque chose qui est significatif d'une certaine tradition. Donc, tout audacieux, tout, disons, personnel que soit Bob Wilson dans sa mise en scène, il reste, pour une part, fidèle à une certaine tradition.
Alors, je voudrais ajouter à ce propos, pour la mise en scène de Wilson, pour ma part, j'ai trouvé que c'était une extraordinaire beauté plastique et poétique constante. C'est-à-dire que le renouvellement est incessant et en même temps, ça m'a paru, c'est peut-être une hérésie que je vais te dire, je ne sais pas du tout ce que Wilson dit de lui-même, de sa mise en scène, mais ça m'a rappelé le monde des comédies musicales sérieuses américaines de Busby Berkeley dans les années 30, notamment Gold Diggers de 1933, où il joue infiniment sur les néons, les éclairages violents, les visages qui sortent de l'ombre tout à coup, tout seul, sur un écran noir, ou au contraire très nombreux. Tous ces jeux qui sont saisissants dans la mise en scène de Wilson aussi, où il y a tout à coup deux visages isolés et dans le noir, et puis aussitôt après tout l'ensemble de la troupe. Tout ça m'a paru être ce monde, comme il a mis tout ça en musique grâce au jazz, me paraissait rappeler un monde dans lequel il a sans doute grandi, celui de ces comédies musicales de Broadway qui étaient transcendées par Busby Berkeley, qui a été imité beaucoup plus tard par Gene Kelly, Minnelli et tous les grands de la comédie musicale d'après-guerre et dont les films étaient sérieux, parce que Jules Dillon, 1963, c'était un film sur la crise, sur le chômage, sur les anciens combattants qu'on laissait dans la misère. Et puis il y avait une première séquence où il y avait 20 pianos à queue qui surgissaient, entourés chacun de la tube à néon. Et c'est des effets à la Wilson, mais simplement dans les années 30. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un spectacle magnifique, d'où le texte sort par bouffée poétique. Il y a des explosions textuelles. Quand un acteur surgit, on agrippe des tirades, des moments. Et évidemment, si on n'a pas lu la pièce 3 fois, il est bien évident qu'on n'y comprend rien.
C'est le mot de la fin.
On peut arrêter en effet maintenant.